Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werf. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 2 épisode 7, je suis toujours en compagnie de Thibaut Van der Werf. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Comment ça va?
Écoute, toujours en pleine forme, surtout quand on a une semaine avec pareille sortie.
Mais ça, comme on l'a dit la semaine dernière, la semaine d'avant, ce mois-ci c'est un mois de dingue, puisqu'aujourd'hui on va parler de 4 films qui sont très attendus, de tous les styles. Hein. On a d'abord une grosse comédie française populaire, si je puis dire, qui est Le Grand Bain. C'est presque Ocean's 12 à la française, on va dire, mais avec des budgets français et une histoire française.
Oui.
Puisqu'il y a au casting Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, c'est réalisé par Gilles Lellouche. On a d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer Gilles Lellouche, on va vous passer ça tantôt. Autre film dont on va parler, c'est Les Frères Sisters, c'est le premier film en anglais de Jacques Audiard. Jacques Audiard que tu as également rencontré au Festival de Gand la semaine dernière.
Et ouais.
On va aussi avoir un extrait de cette interview.
C'est du lourd. Du lourd,
oui, c'est ça. Quand, attention. Hein,
du lourd. Du très très lourd.
Changement de budget, attention, c'est ça. Du très très lourd. On va aussi parler d'un film qui s'appelle Bad Times at the El Royale. C'est un film un peu what the fuck quand même. Si vous avez vu une bande-annonce passée ou un poster, vous vous dites tiens, c'est un nouveau Tarantino ou quoi. On va en parler. C'est pas du tout le cas. Hein. Je vous rassure tout de suite. C'est un film de Drew Goddard qui est en fait un scénariste chevronné aux États-Unis qui a fait pas mal de films et qui réalise ici son. C'est son deuxième court-métrage, premier court-métrage.
Son premier long.
Son premier long, tout à fait. Qui est un film étonnant. Et quatrième film de la semaine, c'est sans doute le film que beaucoup d'entre vous vous attendez, parce que c'est Halloween, c'est la suite du premier Halloween, qui efface un peu tous les autres épisodes de la saga, si ce n'est le premier bien sûr.
Non, c'est une saga compliquée, on en reparlera, mais il les efface pas tous. Hein.
En grande partie en tout cas, puisqu'il y a de nouveau Jamie Lee Curtis au casting, donc c'est un petit peu la suite du premier, de ce point de vue-là en tout cas.
Oui, de toute façon.
Film qui fait un carton total aux États-Unis et qui va sans doute du coup faire un carton ici puisque c'est un peu le seul film d'horreur d'Halloween, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'autres gros concurrents cette année. Il n'y a pas Conjuring numéro 26 ou...
Non.
Non, voilà. Donc c'est le gros film d'Halloween qui fait peur.
Un gros programme. Et par contre, sur Drew Goddard, on a dit que c'était son premier film. Ce n'est pas son premier film, c'est son deuxième.
Voilà. Petit fact-check comme ça, boum, en début d'épisode.
Bah,
toujours à l'affût, Thibaut, dans ses enregistrements. Tardif, c'est fantastique.
Il faut.
Je ne sais pas comment tu fais sans café, c'est incroyable.
Mais
je
oui.
propose qu'on passe tout de suite au premier film, c'est Le Grand Bain, film de Gilles Lellouche. On vous en avait déjà un petit peu parlé à gauche, à droite. Hein. On l'avait vu à Cannes il y a longtemps. On l'a revu il n'y a pas si longtemps. Et c'est un film qui est venu plusieurs fois dans nos discussions, puisqu'on l'avait vraiment bien aimé. On a rencontré Gilles Lellouche et Benoît Poelvoorde récemment à Bruxelles pour parler du film. L'interview de Benoît Poelvoorde se situe sur le site Ciné News, le site de nos partenaires. Et l'interview de Gilles Lellouche, c'est tout de suite, c'est maintenant, on va s'écouter.
Gilles Lellouche.
Bah, il s'appelle Lellouche en soi, hein, c'est juste qu'on l'appelle Lellouche.
Mais tu m'apprends des choses.
Oui. Et donc, on l'a interviewé, on vous passe maintenant un extrait et on aura l'interview plus complète ce week-end dans Cinécast. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse du projet? Parce que j'ai du mal à imaginer comment une idée comme ça dans ta tête a pu se transformer en un film comme celui-ci.
En fait, il y a plusieurs étapes. J'avais commencé à écrire des personnages qui ressemblaient à une constatation que je faisais un peu en France sur pas mal de gens que je pouvais voir qui manquaient un peu d'entrain, un peu d'espoir, un peu de joie, quoi. Pour des raisons bien malheureuses, mais on a subi deux, trois trucs pas très chouettes en France. Donc voilà, il y avait une certaine amertume, un manque d'espoir, on va dire. Et donc j'avais commencé à écrire des personnages qui faisaient un truc qui n'était pas de la natation synchronisée masculine, mais ça manquait de poésie. Et en même temps, j'avais aussi cette envie de parler de gens qui... Parce que je trouve qu'on est de plus en plus tourné vers nos téléphones portables, on est de moins en moins dans le collectif et de plus en plus dans l'individualisme. Et donc j'avais envie de parler de l'importance du collectif. Et le sport amateur, pour moi, reste encore un des rares endroits où les gens se mélangent. Sur un terrain, pourquoi un type de en plein mois de janvier va prendre sa voiture, faire 20 km, il fait moins 1000 dehors, et il va jouer au foot sur un terrain pourri, c'est qu'il y a bien forcément quelque chose qui dépasse l'idée du sport. C'est aller à la rencontre des autres, c'est se mélanger avec les autres, c'est avoir un but commun. Et donc j'ai cherché un sport qui puisse être original. Je suis tombé sur un documentaire qui passait il y a 5 ans sur Arte, sur des types suédois qui faisaient de la natation synchronisée masculine, et j'ai eu le déclic. Parce qu'en fait, il n'y a pas mieux que la natation synchronisée pour illustrer l'importance du collectif. Il faut être synchro. Si on a un qui coule, bah, si on a un qui ne marche pas, il y a sous l'eau ce qui se passe, en dehors de l'eau, bref, ils se prennent les poignets, les mains, les chevilles. C'est vraiment une chaîne humaine qui opère. Et donc je suis parti sur cette idée-là. Voilà.
Voilà, c'était Gilles Lelouch qui nous parlait du Grand Bain, son deuxième film, puisque, comme il le disait si bien, il a été déjà co-réalisateur.
Ouais, il avait co-réalisé Narco, et il avait, alors, il le compte pas dans sa filmo comme réalisateur, mais il avait aussi participé un petit peu aux Infidèles. Donc voilà, maintenant c'est son premier film tout seul, comme un grand.
Alors, Le Grand Bain, ça raconte quoi, à part une poignée de gars en slip? Parce que c'est un peu ça le poster, on va dire.
En moule bite. Hein.
En moule bite. Bah oui, en fait, c'est l'histoire de plusieurs quadragénaires, hein, même quinquagénaires dans certains cas, qui sont tous dépressifs. C'est un peu leur point commun. Ils ont tous un problème dans leur vie, un problème de confiance en soi, un problème de peut-être violence à autrui, un problème aussi de fight, où il y a un peu de tout. Bref, c'est tous un peu on pourrait appeler ça des ratés, hein, dans la vie classique.
Des losers, comme dirait Benoît.
Ouais, voilà, dans la vie où on se compare tous et tout, c'est un peu des ratés. Et qui décident de se retrouver ensemble pratiquement tous les deux soirs pour aller faire un cours de natation synchronisée à la piscine, en moulbite, et fumer des petits duges dans les vestiaires entre deux séances. Et refaire le monde, et justement se confier, et du coup créer une ambiance de groupe, comme disait Gilles dans son interview, pour passer outre leurs problèmes.
Et ils vont avoir un défi.
Ils vont avoir un défi forcément parce que c'est un film, donc il faut vraiment donner qu'il y ait un challenge. Et le challenge, c'est quoi? C'est qu'ils vont s'inscrire au championnat du monde de natation synchronisée.
Pour hommes, hein.
Pour hommes, et ils vont être coachés par deux femmes, dans ce cas-ci, Virginie Fira et Leila Bekti.
Tout à fait.
Qui vont les coacher pour devenir des champions. Voilà, c'est un peu ça le film.
Ah, les champions, c'est ça. Oh, on est tous ensemble.
Ça aurait pu être une chanson sur laquelle il danse dans le film. C'est pas le cas.
Repose en paix, Johnny.
C'est pas le cas. Donc voilà, c'est un film beau, un film familial, un film de joie, un film vraiment qui mélange la dramédie et le drame tout court parfois aussi.
C'est une dramédie, c'est une comédie dramatique, c'est un drame comique, appelle ça comme tu veux, mais ouais. C'est un mélange.
Peut-être commencer par ça tout de suite, c'est pas juste une grosse comédie avec un bon gros Bonapoulevard et etc. C'est vraiment un film qui a beaucoup d'éléments dramatiques dedans. Hein.
Oui, parce que tous les personnages sont, comme tu le disais en présentation du film, sont des dépressifs ou des ratés. Ils ont chacun leur lot de problèmes, ça peut être des problèmes personnels, dans leur couple, des problèmes financiers. Enfin voilà, il y en a vraiment de toutes sortes. Donc forcément, c'est pas très jojo, quoi. Mais dans ce fond dramatique, un peu triste, un peu glauque parfois, il y a des petits jaillissements de bonne humeur, de drôlerie, de comédie. Donc voilà, on est plutôt dans un drame avec des éléments comiques qu'une comédie avec des éléments dramatiques.
Exactement, ce qui fait que c'est un film où les personnages ne sont pas des caricatures, mais c'est vraiment, ils ont une complexité et chaque personnage évolue au fil du film. Ce qui est pour moi un des gros points forts de ce film de Gilles Lelouch, c'est qui fait que ça marche, ça fonctionne. Le film dure pratiquement 2 heures, mais ça passe extrêmement vite.
Ouais.
Parce qu'on s'attache à ces personnages et à la fin on ne peut être qu'ému.
C'est une recette qui a fait ses preuves. Hein. On va pas Gilles Lelouch n'invente rien ici, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. C'est-à-dire que effectivement, il arrive à donner de la place à tous ces personnages, et pourtant il y en a quand même beaucoup. Ils sont quand même quoi, 6-7 dans la bande de nageurs. Puis il y a la coach aussi, jouée par Virginie Fira, qui elle-même a également son lot de problèmes. Donc tout le monde en prend un peu pour son grade, et tout le monde doit se ressaisir ensemble. Et puis pour certains des personnages, on voit aussi des personnes qui sont dans leur vie, donc que ce soit une épouse, enfin plusieurs épouses, un beau-frère très casse-couille, la fille d'un des gars. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnages et tous ont beaucoup de temps, enfin, moi, en tout cas, un temps équilibré à l'écran. Donc, ça, c'est bien parce que c'était important pour que les spectateurs aient de l'empathie et puissent se prendre d'amour pour ces personnages.
Oui, et une des manières de faire de la part de Gilles Lelouch, c'est de, en fait, utiliser Mathieu Amalric comme étant le personnage qui. Le fil rouge un peu qui va rencontrer chacun et c'est pas un film à sketch, on n'aura pas le quart d'heure Poulvord, le quart d'heure Amalric, etc. C'est vraiment une histoire continue via le personnage de je pense que je sais plus quel c'est parce qu'ils sont tellement, il y a Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry, je pense que c'est Bertrand le personnage de Mathieu Amalric,
je pense bien,
qui va du coup rencontrer chacun d'entre eux et qui va ouvrir un nouveau chapitre à l'histoire. Ça, c'est vraiment ça aussi une des forces, c'est qu'on n'est pas dans du sketch un par un, quoi.
Ouais, ouais.
Même si chacun a son moment, hein, je veux dire, il y a...
Bah oui, bien sûr, Poulvord, enfin, si vous allez voir notre interview, c'est en une interview vidéo, je tiens à le préciser, sur Cine News.
Qui vaut la peine, hein, parce que Poulvord était en grande forme.
Poulvord est toujours un petit excité. Et il parle notamment du fait que c'est un type de personnage qu'il joue quand même beaucoup au cinéma et qu'il affectionne particulièrement. Donc effectivement, c'est un rôle dans lequel on l'a déjà vu plusieurs fois et qu'il tient bien. C'est pas pour autant que c'est. C'est pas parce qu'il refait encore ce type de personnage qu'on se dit, oh, Poulvord, il fait encore ça. Non, parce que ici, c'est dans un ensemble, avec chacun sa force, sa faiblesse. Donc, on est vraiment dans quelque chose de. Il y a une énergie de groupe qui est vraiment très, très bien et qui est très réussie, je trouve, dans le film.
Exactement. C'est pour moi un des gros points forts. Alors. Le point faible que pour certaines personnes pourraient pointer du doigt, c'est comme tu le dis, c'est que la recette du film est un peu vue et déjà vue. Hein. C'est un peu à la Little Miss Sunshine. Hein. Ils vont tous se regrouper autour d'un but commun et ils vont aller quelque part en voiture pour faire ce but commun. Et est-ce qu'ils vont y arriver ou pas ? Mais c'est pas grave finalement parce que ce qui compte, c'est l'amitié. C'est un peu ce message, on va dire, classique qu'on peut avoir. Et donc, c'est là que. Dans son côté prévisible, dans son deuxième acte, troisième acte, c'est peut-être la petite faiblesse du Grand Bain. Pour le reste, je trouve que le film est extrêmement bien mis en place par Gilles Lelouch, extrêmement bien monté aussi, puisqu'on n'a pas de problème de rythme, pas de faux pas. Et il y a aussi même, une recherche un peu esthétique de la part de Gilles Lelouch en filmant ses scènes de bassin, en utilisant ses corps d'homme pour faire un peu un truc sensuel parfois, au féminin.
Oui, il y a quelque chose de très réussi dans la mise en scène... notamment des scènes aquatiques. Dans l'ensemble, c'est il y a pas de fioritures, il y a pas d'effet de style, il y a pas de Gilles Lelouch ne se lance pas dans un exercice
oui, bien sûr,
de mise en scène absolument
des
incroyable.
Des séquences de fou.
Voilà, il fait le boulot. Alors je dirais pas que c'est un faiseur, hein, mais il fait le boulot bien parce qu'il y a une sensibilité qui est là et c'est ça qui est important. Donc non, il fait ça très bien et principalement les scènes aquatiques, comme tu le mentionnais, il y a vraiment de très très belles choses qui se font, notamment évidemment le final, l'apothéose, quand ils font leur prestation au championnat du monde, qui est absolument, déjà la chorégraphie en elle-même est très belle, mais la scène, la façon dont elle est filmée, ça rend le tout encore plus beau, donc franchement oui, c'est très réussi.
Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose de plus à rajouter sur ce film. Personnellement, moi, c'est un de mes favoris de l'année parce que c'est exactement mon genre de film. Un mélange entre les deux, l'humour, le drame et ce casting impressionnant.
Et c'est français, c'est drôle.
Et c'est français, et tout c'est ce drôle. C'est tout ce que j'aime. Il n'y a pas Franck Dubosc.
Il n'y a pas Dubosc et Danny Boone, je suis un peu déçu. Mais
il n'y a pas...
Channing Tatum.
Non, Channing Tatum. Dans le remake du Grand Bain américain, peut-être, avec Jonah Hill.
Écoute, on réfléchira à un casting américain pour le remake, ça pourrait être très drôle.
Bah dites-le nous.
Si il faut John C. Reilly, Will Ferrell.
Oui, Will Ferrell, il pourrait être très bien dedans. Là.
Ouais.
Mais John C. Reilly. Louis C.K. Non.
John C. Reilly, on va en parler d'ailleurs.
Oui, on va en parler.
Mais alors, on va d'abord donner une note au Grand Bain.
Oui, quand même.
Un bon 3, non
Moi, j'aime vraiment. Ah ouais, j'aime vraiment bien. Ah oui, je voudrais 4.
Et là-dessus, encore un petit 4. Ouais. Un grand 4.
Tu sais que c'est dur pour toi, hein.
Ouais, non.
Mais c'est toujours dur. Toi qui choisis.
T'es en train de me dire de me faire passer pour un mec qui n'aime rien. Non, j'aime beaucoup le film, je le trouve réussi, etc. Alors, de là à aller jusqu'à 4, non. parce que il manque quand même des choses pour arriver
si
à...
Si j'avais un portefeuille, on ferait un pile ou face. Là.
Ah, attends. J'en ai un, tu veux ?
Attends, oui, vas-y, vas-y, vas-y.
Ah, c'est... Très sérieusement. Ah, c'est comme ça.
Très sérieusement.
On la joue
là,
comme ça,
parce que
bravo.
Tu prends toujours les notes.
C'est vrai.
Bah, cette fois-ci, j'ai vrai que
moi qui vois les films.
Voilà. J'ai vu celui-là.
Une fois que t'en as vu un.
C'est pas toujours vrai.
Alors, pile.
Merde.
La pile, c'est 4.
La tête d'Albert.
Et,
la tête
d'Albert. Et face, c'est 3. Ça va ?
Face, alors. Et alors, j'arrive pas à voir. J'ai
ah,
les lunettes
ah,
oui, de
bah oui, t'es bigleux. Oui. C'est face.
C'est face.
Ouais, je suis désolé.
Bon, c'est 3, c'est 3. Ok.
Bon. Je peux te glisser la
Gilles,
pièce.
Gilles, je suis désolé. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ?
On est bien d'accord.
Merci pour les 2 euros, je les garde.
Ça va.
Bon, ben, c'est 3 étoiles pour Le Grand Bain. Vous savez. Alors, on est très consciencieux
ici. Hein. C'est un 3 étoiles avec encouragement et mention.
Avec,
ça te va ?
Avec une mention coup de cœur, comme chez Filigrane.
Allez, très bien. Mention coup de cœur.
Mention coup de cœur pour Le Grand Bain. Mais, j'ai envie de dire, cet épisode est un All-Star cast aussi. Hein. On a aussi notre grand bain à nous, puisque maintenant on va parler du film, Les Frères Sisters, qui est un film, le grand absent de Cannes, on peut le dire. Hein.
Oui.
On l'attendait.
D'ailleurs, c'est pas du off, mais à la fin de mon interview avec Jacques Audiard, je lui ai dit que ça faisait plaisir de le voir à Venise et pas à Cannes, ça changeait un petit peu. Il me disait, ça fait pas plaisir à tout le monde. Je lui ai dit, moi ça me fait plaisir. Et puis il me fait, mais il y en a un en particulier qui râle un peu. Hein. Allusion évidemment à notre cher Thierry.
À Thierry Luthers.
Thierry Frémaux.
Non, à Thierry Frémaux.
Thierry Luthers. Et quand il vient. Et c'est podcast cinéma ici. Hein.
Oh, ah, excuse-moi.
On parle pas football.
Je croyais que tu es en tribune. Excuse-moi.
Ni de Johnny, quoique.
Ah, bah, quoique.
Hein.
Pourquoi
Ben oui, non, alors c'était gentiment évidemment, hein, mais vu que ce film est son premier film en anglais à un gros cast américain, évidemment il vise les récompenses, les cérémonies de récompenses. Donc,
il est à Toronto aussi.
C'est pour ça qu'il a commencé à Venise et Toronto. Mais
ah, oui.
Et donc on parlait de John C. Reilly tout à l'heure, c'est un projet qui vient de lui à la base. Hein.
Ah oui.
Alors il joue dans le film, mais c'est lui qui a approché Audiard avec avec le livre. Et
il a acquis les droits, je suppose.
Alors je pense qu'il avait les droits effectivement. Et comme il avait beaucoup aimé, je pense, De Rouille et d'Os, c'est à cette époque-là qu'il a rencontré Audiard.
Ouais.
Il l'a approché avec ce projet, parce que je pense, à mon avis, que tourner ce genre de film en Europe apporte une certaine liberté qu'il n'aurait peut-être pas aux États-Unis. Et donc voilà, en même temps, tourner un film en Europe, c'est aussi une autre sensibilité, c'est une autre approche, une autre vision. Donc c'est pour ça que John C. Reilly a sans doute approché le grand Jacques Audiard.
Alors, pour son premier film en anglais, il a utilisé le fantasme américain du western. Hein, pour tout réalisateur, je pense que ça doit être un must, réaliser un western.
Et alors, pour Le Commun des Mortels, Audiard, non, pas spécialement.
Bah donc voilà.
Parce que
fait pas les choses comme les autres.
Hein. On n'écouterait pas l'interview d'ailleurs.
Je me posais la question parce que le film, tu vois, Le Grand Bain, c'est assez facile de comprendre de quoi ça parle. Mais Les Frères Sisters,
on parle d'abord
du synopsis. Pour qu'après on puisse écouter Jacques Audiard nous parler du film. Donc, juste le synopsis, comme ça vous savez.
Je ferai une petite précision sur pourquoi je t'ai dit que Audiard, non, c'est pas un fantasme.
Donc le synopsis du film de Les Frères Sisters, c'est Charlie et Ellie Sisters qui évoluent dans un monde sauvage et hostile. Voilà, je vais vous faire. On de la raconte. Ils ont du sang sur les mains, celui de criminel, celui d'innocent. Et ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est fantastique. J'ai l'impression de dire l'histoire à quelqu'un. C'est leur métier, en fait. Et Charlie, le cadet, est même né pour ça. Ellie, lui, par contre, ne rêve que d'une vie normale. Et ils sont engagés par le Commodore pour chercher et tuer un homme. Est-ce que j'en dis plus ou pas ?
Non. Ah, qu'est-ce qui...
De l'Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou. Oui, éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité.
Ah, oh, ouais, non, okay. C'est bien.
C'est bien.
Tu pouvais aller jusqu'au bout, oui.
Ben voilà, maintenant que vous savez un peu plus de quoi ça parle.
En même temps, il fallait pas être. Fallait pas avoir fait plus 4 pour.
C'est souvent le même genre de truc. Hein, truc
deviner ce genre d'éléments. Voilà, ben, voilà. Oui.
Donc. On écoute tout de suite Jacques Audiard qui parle du film avec Thibaut.
C'est pas le genre qui m'a. Je ne me suis pas lancé dans le genre, je me suis lancé dans une histoire qui m'intéressait. C'était un petit peu différent et que pour moi, vous savez, Le genre western appliqué aux Sisters, c'était juste faire... Il y avait une évidence dans Sisters, c'est que c'était un film d'époque. Donc voilà, moi j'ai fait un film d'époque. J'ai pas le... Je ne connais ni vraiment les codes du... Il y aurait des codes dans le genre western, je ne sais pas si je les connais. Et même, vous savez, par exemple, dans le western, il y a toujours cette présence, surtout dans les films de Ford, dans le western très lyrique, il y a cette présence du paysage, qu'il soit en noir, même en anglais, comment ce paysage impressionnant, cette distance et tout ça. Moi, je sais que je ne pouvais pas le faire, donc je ne l'ai pas fait. Ça ne m'a pas intéressé.
Mais vous avez senti des contraintes, vous lancez dans un... Bon, même si, évidemment, c'était pas le... Enfin, comme vous venez de le dire, c'est pas ce qui vous a amené. Vous avez été attiré par l'histoire et le western en fait partie, mais le fait que ce soit ce genre-là, ça vous a pas amené de... Enfin, il n'y a pas eu des contraintes qui vous ont peut-être fait peur ?
Si, mais les contraintes, elles étaient liées à la Réconstitution, si, c'est ce que vous vouliez dire.
Par exemple ?
Là, oui, bien sûr. Parce que comment le... Pour moi, toutes les contraintes étaient celles-là. Voilà, c'était des contraintes liées à la Réconstitution, et à partir du moment où vous avez une profondeur de champ, ben voilà, jusqu'à quelle distance vous faites exister l'image. Voilà, c'était ça. Et que quand on tournait, on a beaucoup tourné en décor naturel, dans la pampa, quoi. Et là, si vous faites des scènes de nuit, il faut tout amener, quoi. Il faut amener la lumière. Ça, c'est contraignant, ça.
Donc clairement, à l'écoute de Jacques Audiard, on comprend bien que c'est pas le style du western, le genre du western qui l'intéressait dans ce projet-ci, c'est plutôt vraiment du coup le parcours initiatique des deux personnages.
Bah oui, parce que voilà, Jacques Audiard n'a pas regardé, ou en tout cas n'est pas un grand amateur de western, donc c'est pas, curieusement, ce n'est pas un élément qui a joué forcément dans sa décision, mais fort heureusement, il a franchi le pas, et il a adapté cette histoire qui effectivement est très intéressante, je trouve. Alors, il y a deux duos dans le film, parce qu'on en parle, on a parlé que du duo constitué par Charlie et Ellie, qui sont donc les deux frères.
Qui sont joués par, parce qu'on
alors,
le sent pas dit par contre.
Charlie, qui est donc le cadet, est joué par Joaquin Phoenix, mm-hmm. et Ellie par John C. Reilly.
D'accord, donc, pas du tout le même âge, pas le même genre de frère du coup.
Non, Charlie est celui qui a la gâchette facile, hein, ouais. Et Ellie c'est celui qui est un peu plus posé, et il en a un peu marre de cette vie de tueur à gages, voilà. Mais donc, il y a un autre duo qui est composé de Riz Ahmed, qu'on a vu dernièrement dans Venom, par exemple, et Jake Gyllenhaal. Riz Ahmed interprétant quelqu'un, justement, que les frères doivent trouver. Et Jake Gyllenhaal joue une espèce d'intermédiaire, de détective, qui piste le personnage de Riz Ahmed le temps que les deux frères arrivent pour lui régler son compte et soutirer quelques informations utile.
Ouh là là.
Donc, voilà, il y a vraiment deux couples, on va dire. Les frères d'un côté et les deux autres types de l'autre. Forcément, à un moment, ils vont se croiser. Il va y avoir plusieurs
choses
sympathiques.
Ils vont boire un verre ensemble, tranquillement.
C'est ça qui est bien, c'est que le film ne va pas toujours là où on l'attend. Il y a des décisions des personnages qui peuvent un peu surprendre. Et en fait, ça fait qu'on n'est pas dans un western pur et dur, dans le sens où il y a énormément de grands espaces,
c'est plutôt une bonne chose,
avec
en fait,
des musiques épiques, ouais. etc. En fait, le film pourrait se passer quasiment... Alors, je ne vais pas dire à n'importe quelle époque, n'importe où, parce qu'il y a quand même... Enfin, il y a des contraintes liées à l'époque, et donc au fait que forcément, il n'y a pas Internet, machin. Donc, tu vois, ce n'est pas une poursuite d'un personnage comme on le ferait maintenant, mais... Dans l'absolu, on pourra adapter ce genre d'histoire à peu près n'importe où, n'importe quand. Donc, le western n'est qu'un contexte ici, mais un très beau contexte. Parce que tu allais enchaîner sur je ne sais pas quoi, mais tu étais prêt à rebondir.
Exactement.
Mais c'est la petite minute chauvine. Le chef opérateur d'Audiard sur ce film, c'est le Belge Benoît Deby, qui travaille généralement avec Gaspard Noé, avec Harmony Korine. Un grand, grand chef opérateur et qui fait énormément de clips aussi, Jay-Z, Rihanna, enfin, la totale.
Des gens qu'on connaît
pas. Le fameux clip de Jay-Z et Beyoncé au Louvre.
Sur la moto, non.
Au Louvre, c'est lui.
Eh ben, dis donc.
Ouais, ouais. Donc il réalise pas, il est chef opérateur. Ici, à nouveau, c'est fantastique, son travail, c'est hallucinant. La première scène se déroule de nuit, et tu vois juste, tu ne vois rien, parce qu'il fait tout noir, mais vraiment noir. Et les seules lumières qui éclairent la scène, c'est quand il y a des échanges de coups de feu, et puis un incendie, enfin voilà, il y a plusieurs choses. C'est absolument magnifique, les nuits sont superbes. Alors que d'habitude, tu vois toujours que si ce sont des nuits américaines, donc c'est-à-dire que ça a été filmé deux jours, et puis il y a un filtre en post-prod qui obscurcit le tout, mais... Ou alors, c'est rarement bien éclairé et tu vois rien ou tu vois trop. Ici, franchement, c'est assez, assez bluffant. Donc, excellent travail de Benoît, comme d'habitude. Voilà.
Ok, je croyais que tu voulais enchaîner.
Non, mais du coup, moi, je te laisse la place pour enchaîner, rebondir, Guillaume. Non. Tu sais toujours ce que tu voulais dire.
Non, pour te poser des questions par rapport justement aux acteurs.
Hein,
j'avais cru comprendre qu'ils avaient énormément travaillé pour rentrer dans la peau de ces personnages-là, essayer d'adopter des petites mimiques, de se renseigner aussi sur l'époque. Est-ce que tu sentais dans l'interprétation, parce qu'il y a quand même Joaquin Phoenix qui est un acteur qui, en général, n'y va pas par quatre chemins quand il s'agit de jouer la comédie.
Non, lui, il s'implique à fond. C'est comme Daniel Day-Lewis et plusieurs acteurs de cette trempe.
Exactement. Alors, est-ce qu'il y avait des coups de tonnerre dans le film de par la prestation ou c'était plutôt vraiment l'histoire ici qui était le pilier ?
Ah, le pilier est clairement l'histoire. Ça, on va pas se mentir. Mais évidemment, les interprétations sont au top. Hein. On parle quand même de Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed et John C. Reilly, qui sont quand même pas
n'importe qui.
Les derniers abrutis venus. Hein. Donc non, c'est au cordeau,
mais
parfait.
Parce que alors, un des éléments vraiment importants dans un film comme ça sur un parcours initiatique, c'est la relation entre du coup les deux personnes qui vont mener ce chemin, on va dire. Est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce qui, pour toi, sort du lot là-dedans ?
Bah, super bien. Alors, en fait, ce qui fait particulièrement que ça fonctionne, je trouve, c'est qu'il y a un petit changement par rapport au livre. C'est-à-dire que dans le livre, c'est l'aîné qui a la gâchette facile et qui est accro à son boulot, et ouais. C'est le cadet qui, lui, a envie de raccrocher. Ici, c'est l'inverse. C'est le cadet qui a la gâchette facile et l'aîné. Et l'aîné qui veut le. Je vais pas dire le ramener dans le droit chemin, mais voilà, qui veut arrêter les frais. Et cette relation, elle fonctionne super bien parce que forcément, les deux caractères des personnages sont très différents. Ils sont pas diamétralement opposés, hein, mais ils sont quand même très très différents. Et c'est très efficace en fait, parce qu'il y a un rapport de force qui est échangé et qui change, ça c'est inhabituel, du coup ça surprend un peu et voilà, je trouve que ça fonctionne très bien.
Quel serait selon toi, parce que ce genre de film, tu le dis toi-même, hein, les parcours initiatiques et tout, bon, c'est un peu, on connaît, on a vu et revu, quel est pour toi, s'il y en a, peut-être que tu vas me dire non, en fait c'est vrai que c'est un peu classique, ou bien est-ce qu'il y a une touche Audiard qui fait que celui-ci est plus réussi qu'un autre ?
C'est une bonne question.
C'est
pas le film d'Audiard que je préfère.
C'est lequel, par curiosité ?
Bah, je crois que je préfère quand même Un prophète et voir De Rouillé d'Os, mais dans les westerns que j'ai vus ces dernières années, même si globalement maintenant, chaque fois qu'on fait un western, il est quand même de très très bonne qualité, ici c'est vraiment excellent. Et c'est peut-être parce que justement le côté western n'est pas essentiel au film que ça en fait un western aussi bon. Comme je disais, ça pourrait être quand même adapté à une autre époque.
Ils ne se concentrent pas que sur l'aspect western.
Voilà, c'est ça.
Ils n'en font pas tout un truc. Quoi.
Voilà, c'est ça. Okay. C'est vraiment un contexte. Et je trouve que ce sont ces éléments-là qui font que c'est vraiment aussi bien.
Super.
Mais du coup, c'est clairement un très très bon Audiard. Hein. La question ne se pose pas. C'est même... je pourrais pas dire, mais ça pourrait être dans un top 10 ou un top 20 de l'année. Moi, sans doute plutôt 20 que 10. Mais oui, c'est du très très bon.
Du très bon qui risque même... très fort de se retrouver aux Oscars et
oui.
Tous ces trucs-là.
Et même Alexandre Desplat fait du très bon travail. D'habitude, je ne suis vraiment pas fan de Desplat. Ouais. Mais il a fait vraiment une très très bonne musique que j'ai hâte de réécouter. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore réécouté. Mais,
j'ai l'impression que chaque année, on a droit à du Desplat et du Hurwitz aux Oscars.
Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Mais je trouve que Desplat, depuis maintenant deux peut-être trois ans, il y a... J'apprécie de plus en plus son travail, parce que d'habitude, je trouve qu'il en fait des caisses. il appuie beaucoup trop les sentiments, etc. Et il sort les violons à toutes les sauces et c'est un peu épuisant. Mais voilà, chaque année, je trouve qu'il y a une à deux BO qui sortent vraiment du lot et c'est très appréciable.
Super, bah écoute, combien est-ce que tu donnes ? Combien d'étoiles donnes-tu aux Frères Sisters ?
J'ai
de Jackie.
Même dilemme que tout à l'heure, hein, 3 ou 4.
3 ou 4 ?
3 et demi.
Disons 3. Tu ne m'as pas vendu, honnêtement, tu en parles bien, mais tu n'as pas vendu le truc inoubliable non plus, quoi. En tout cas, ce n'était pas l'impression que je n'avais quand je t'entendais parler.
Mais ce n'est pas inoubliable.
Ouais, tu vois.
En même temps, est-ce qu'il y a 5 films par an qui sont inoubliables ?
Non, mais le Panthéon du 4 étoiles, c'est quand même un pantalon.
Un pantalon, t'es chouette.
Un pantalon inaccessible. Difficile d'accès, en tout cas.
Oui. Mmh. Oui. Cette année, on a quand même donné des bons 4 étoiles.
C'est vrai, la semaine passée.
Non, mais ça... Oui, c'est vrai. Mais écoute, je vais quand même aller vers le 4.
Boum, les Frères Sisters.
Ouais, comme ça.
La petite étoile de plus que le Grand Bain. Je suis un peu vénère, là.
Mais tu n'as pas vu les Frères
Sisters. Je peux pas dire.
Mais... Non, mais toi, tu aimes ça, les films beaufs.
Moi, j'aime bien. Mais c'est pas des films beaufs.
Non, mais je sais, je te charrie.
De quoi parles-tu ?
Je te charrie.
C'est pas les tuches non plus.
Non, mais tu aimes les tuches.
J'aime bien les tuches. C'est mon plaisir. Plaisir coupable.
Aucune crédibilité, ce gars.
Plaisir coupable. Del Toro. Parlons-en.
Mais oui.
Quand on parlait de Desplat, tu m'as fait penser à Chez Pauvreteur tout à coup avec la musique.
C'est vrai que c'était une de ses très bonnes musiques, je
D'accord,
trouve.
Bah oui. Oui, oui.
Qui avait un petit côté Amélie Poulain, qu'il n'avait pas remarqué apparemment au début quand il l'a composé, mais je sais que des journalistes lui ont fait remarquer.
Blindé.
Enfin, c'est un confrère journaliste qui m'a dit ça et lui a fait la remarque. Et sur le moment, il s'était un peu braqué quand même. Et puis, ils se sont recroisés à un autre moment et il lui a fait. Effectivement, j'ai un peu réécouté les deux et. T'as raison, mes excuses.
Voilà.
Mais du coup, il a fait du bon travail.
Ben oui, mais je trouve souvent que les BO aujourd'hui, il y a un thème qui est composé, et après, t'as 20 chansons ou 15 chansons ou 10 chansons qui sont à chaque fois des alternatives du thème principal.
Des variations, oui.
Et ben dans Shape of Water, c'était ça. T'avais les notes du
First
film.
First Man, c'est ça aussi, hein, par exemple.
Oui, je sais, j'ai écouté. T'as les notes du film, qui est apparemment la musique du film, et puis après, t'as un peu comme La La Land, t'as un peu 2-3 petites tonalités... à gauche, à droite.
Alors dans First Man, il y a quand même plus qu'un seul thème. Il y en a au moins 2, voire 3.
Oui, oui. Mais comme dans La La Land, d'ailleurs, il y en a plusieurs.
Oui. Oui, mais ça a un sens, tout ça. Hein, que des thèmes soient... Et plusieurs variations.
Moi, j'aime bien parce que du coup...
D'un point de vue narratif, ça a du sens.
Ça a tout à fait du sens. Et puis d'un côté, ça... On s'en rappelle, quoi. On se dit, tiens, ce thème-là, ou ces quelques notes de musique là sur un piano ou autre chose, ça fait référence à ce film-là et on le sait tout de suite.
Oui.
La laine de.
Après, par exemple, je pense à First Man, vu que pour l'instant c'est la BO que j'écoute le plus. Quand tu regardes le film, à plusieurs moments, tu fais pas spécialement attention. Et puis, plus ça passe, plus le film avance, et tu te rends compte de l'importance de certains thèmes, des récurrences de ceux-ci, et parfois de la puissance qu'ils ont. Quoi. Le morceau The Landing de First Man, c'est absolument fabuleux. Quoi. Et c'est vraiment là que le thème de Armstrong
prend vie.
Ouais, c'est son apothéose, quoi.
Exactement. Bah en fait, il coupe plein de morceaux et puis après, il les recolle ensemble. Et à la fin du film, boum, t'as une espèce d'explosion de musique. Et pas explosion dans le sens Inception, hein, qu'on soit bien d'accord.
C'est pas du Hans Zimmer, oui, c'est ses gros claviers.
Comme toutes les bandes annonces. Donc, parlons. On a complètement changé de sujet, mais c'est pas grave.
Oui.
Parlons de Del Toro, hein, qui est l'ami Del Toro, qui après être passé à Bruxelles l'année passée au BIF.
Cette année.
C'est encore cette année.
Ils sont toujours en 2018.
Je sais, mais quelle année, mon vieux.
Ouais.
Del Toro qui, lui, en fait, va enfin faire son projet, son bon vieux projet, qui est en fait l'adaptation de Pinocchio.
Exactement.
Que je me trompe pas. L'adaptation, on va dire, assez fidèle. Hein. Je pense pas qu'on n'est pas dans le Disney, là.
Si, on est quand même plus dans du Disney. Ouais.
Ah, quoi, ce serait vraiment comme Casse-Noisette et des trucs comme ça, mais.
Alors, en fait, bon, déjà, c'est, effectivement, c'est un vieux projet. Je pense que la première fois qu'on en a parlé, c'était il y a plus de 10 ans. Ou en tout cas, pas loin de 10 ans. Il est question d'un film en stop motion, donc en animation, image par image, avec beaucoup de musique. Parce qu'en fait, c'est prévu pour que ce soit, je ne vais pas dire une comédie musicale, mais en tout cas, c'est une adaptation musicale. Donc, animation, stop motion, musique. Et c'est prévu pour 2019. Ce sera sur Netflix, normalement. Et Guillermo produit, écrit, réalise la totale. Quoi.
Ok.
Donc, c'est un projet assez excitant. Alors, parce qu'effectivement, il y a le côté, tu dis, film d'animation musicale. Il y a un petit côté Disney, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Mais c'est Del Toro, il faut oublier que c'est lui qui réalise donc, et qui écrit. Donc je ne pense pas que ce sera quelque chose de...
Conventionnel.
Exactement, conventionnel, de classique. Je pense qu'on sera dans quelque chose d'assez sombre tout de même. Surtout que c'est censé se passer durant l'avènement de Mussolini, je pense dans les années 30. Donc écoute, tout ça est très curieux et donne très envie de voir le film.
Une raison de plus de s'abonner à Netflix, hein, quand même. Ceux-là, ils sont en train de changer la manière dont films sont produits, distribués, tout ce que vous voulez.
Quoi. Complètement, ça, complètement. Mais alors, on en parle depuis un moment, et je pense qu'il faut qu'on le dise à l'antenne, sinon on ne le fera jamais. On fera un épisode spécial Netflix, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en ce moment.
Pour les vacances.
Entre maintenant et la fin d'année, il y a énormément de gros trucs Netflix qui sortent. Et pas par n'importe qui. Quoi. Il y aura entre autres Roma, le Lion d'or. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Netflix en ce moment.
Voilà, ce ne sera pas de la série B. Parce que bon, il y a un peu cette réputation que Netflix sort les films qui sont un peu des VOD. Enfin, tu vois, genre des films qui n'ont pas été assez bons pour être distribués en salle. C'est un peu ça le mythe.
Oui.
Mais non, ce n'est pas toujours vrai. Bon, Roma est un film très particulier, avec un public particulier aussi. Donc ça coûte très très cher de mettre en salle et pour un rendement qui n'est pas assuré. Surtout quand on a 8 films en compétition, comme cette semaine, avec Halloween, Le Flic de Belleville, Le Bazar de Bidule, ça devient difficile.
Ouais.
Donc, voilà. Mais sinon, c'est pas le cas. Hein. Ils sont en train de produire des gros bazars aussi. Donc,
Ils achètent beaucoup de films qui sont tout faits. Alors, on va pas partir dans le débat maintenant.
C'est ça.
Mais ils achètent quand même beaucoup de films qui sont tout faits. Mais quand on regarde les noms des réalisateurs qui ont des films Netflix, c'est impressionnant. Et là, dernier en date, Kim Ji-woon, réalisateur coréen, son dernier film vient de sortir sur Netflix, quoi. Et pas en salle. Pourtant, c'est Kim Ji-woon, c'est pas n'importe qui, mais c'est comme ça. Donc voilà, je pense qu'on aura plein de choses à dire si on fait une petite spéciale Netflix.
Clairement. Et c'est quelque chose que vous pourrez rattraper en temps réel quand on parlera, on pourra dire. Faites pause et appuyez sur le bouton play.
Mais oui.
Et revenez dans 10 minutes. Ouais, 10 minutes, 1h20. Maintenant, parlons du troisième film de la semaine. Alors là, c'est un film, chers amis. C'est le genre de film où on ne sait pas du tout de quoi ça parle. Donc on voit le poster, on voit la bande-annonce, on se dit ok, mais encore, entre guillemets. C'est Bad Times at the El Royale. C'est un foutoir total, mais volontairement. Hein. Donc il y a Chris Hemsworth au casting, Dakota Johnson, John Hamm, je pense que j'en oublie beaucoup. Il y a qui d'autre au casting ? C'est nouveau un casting un peu choral, non ?
Oui. Alors tu as dit oui, Dakota Johnson, ouais, Chris Hemsworth, John Hamm. Jeff Bridges quand même, hein, donc
The Dude, c'est ça. Ils sont 7 hein, au total.
Ils sont 7.
7 parce que c'est 7 étrangers, chacun avec un secret, qui se retrouvent au El Royal, c'est un hôtel, sur les rives.
Plutôt motel.
Un hôtel miteux, voilà, avec un lourd passé. Et concrètement, au cours d'une nuit où il pleut et tout, tu vois. Ils ont tous une dernière chance de se racheter, ou je ne sais pas très bien ce qui va se passer, mais concrètement, vous avez compris, c'est un huis clos avec des personnages qui vont peut-être se taper dessus, qui vont peut-être avoir des discussions, qui vont peut-être... ça va être compliqué. Hein.
Ça va être mouvementé. La nuit va être mouvementée.
Ils vont passer des bad times à l'Air Royal. C'est un peu ça le...
Voir la nuit va être sanglante un peu.
Oui.
Et oui.
D'où le côté un peu Tarantino. Hein. Moi, quand on voit un peu les bandes annonces et tout, on se dit, tiens, on a l'impression d'avoir... Maintenant que j'oublie ce titre, comment s'appelait ce film où les westerns, ils vont dans la neige et ils vont tous dans une espèce de maison.
Ah, les 8 salopards.
Voilà, les 8 salopards. On a l'impression d'avoir un film légèrement similaire à ça.
Oui, dans l'idée générale un petit peu, mais je veux dire, Tarantino, t'es pas le premier à faire ça non plus. Hein.
Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est là-dessus que le marketing, c'est vraiment de pencher avec des musiques un peu pop.
Mais oui, il y a un petit côté 8 salopards, si tu veux, voilà, effectivement.
Sauf qu'ils sont 7 ici. Et que c'est pas un film du tout réalisé par, par Tarantino, c'est par Drew Goddard. On en parlait un tout petit peu en intro. Drew Goddard, qui est un scénariste, pardon, qui est l'homme derrière beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros succès.
Ben, on lui doit déjà pas mal d'épisodes de séries, les séries de Joss Whedon, en gros. Hein, Buffy, Angel, Alias.
Friends.
Il a écrit des épisodes de Lost aussi.
Ouais.
Il a écrit Cloverfield, La cabane dans les bois, son premier film. Il a écrit World War Z.
Bonne surprise, La cabane dans les bois d'ailleurs, un film un peu décalé.
Oui. Il avait écrit Seul sur Mars aussi de Ridley Scott. Donc voilà, quelques bonnes choses.
C'est pas basé sur un livre ça à la base ?
Si.
Oui, donc il a adapté le livre.
Oui, oui, de Andy Weir.
C'est quelqu'un qui a fait ses contacts et fait son petit nid à Hollywood et qui maintenant réalise son premier long métrage. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de ce Bad Times de El Royale qui fait quand même 2h25? C'est un film...
C'est un petit peu longuet.
C'est un petit peu
un petit peu longuet. Il y a un moment, tu te dis, bon, Drew, j'ai compris,
il faut couper un
je
petit
sais
peu.
Où ça va aller. Au moment, tu pourrais peut-être éviter certaines scènes. Mais bon, voilà. Tu parlais de Tarantino, on peut faire la comparaison encore d'une autre façon. C'est-à-dire que le film est chapitré.
Ah ouais.
Et donc en fait, chacun des étrangers va dans une chambre. Et donc le premier chapitre, entre guillemets, c'est chambre 5, par exemple. Et puis tu passes à la chambre 4.
D'accord.
Et donc, voilà, tu vois chacun des personnages. Forcément, il y a des moments où ils se croisent. Enfin, alors, petite précision, le film commence quand ils arrivent tous dans le lobby. Hein. On n'est pas... ça démarre pas directement avec, dans les chambres. Mais il y a un moment, forcément, ils vont tous se croiser. Donc parfois, il y a des petits... pas des flashs, enfin si, des sortes de flashbacks où le film revient un petit peu en arrière pour voir comment ils se sont croisés, enfin comment ils en sont arrivés là, etc., etc. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Enfin, moi j'aime bien le film dans l'absolu.
Okay.
Il sera pas mémorable.
Pourquoi alors ?
Pourquoi ? Parce que effectivement il y a ce côté, même si voilà, je faisais pas la comparaison forcément avant, mais maintenant que tu l'as faite, je vais m'en servir. Il y a ce petit côté Tarantino qui est plutôt agréable. Les aventures, les interactions entre les personnages sont bien. Il faut dire que le motel cache quelques secrets. Il y a par exemple on sait qu'il y a de l'argent qui est caché dans le sol. De l'argent caché. Ouais. Et on sait qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans cet endroit. Donc Il y a des mystères qui résident dans ces lieux.
Il y a un petit côté psychose aussi, quoi. Le motel cache quelque chose, quoi.
Oui, je n'irais pas jusqu'à dire un petit côté psychose,
attention,
mais...
Attention, je suis en train de faire des comparaisons.
Ouais, ouais, là tu te
un petit
vraiment...
côté Columbo, sinon, c'est pas ça.
Mais du coup, les personnages, ils avaient intérêt à être bien pour que ça fonctionne, parce qu'on passe effectivement 2h20 avec.
Oui.
Heureusement, ils sont bien. Sinon, ça serait vraiment... pénible.
Oui, ce serait pas bon du tout.
Alors même si je trouve le film un peu long, parfois il s'attarde trop sur certaines choses, dans l'ensemble, c'est bien. Ça fonctionne, les interactions fonctionnent bien, les retours en arrière fonctionnent bien aussi, les flashbacks, quand ce sont des vrais purs flashbacks, pareil, tout ça, ça fonctionne assez bien. Ça va dans la folie, ça part un peu dans tous les sens quand arrivé à un certain point dans le récit.
Ouais.
Donc voilà, je trouve que l'ensemble fonctionne bien. Mais il sera pas mémorable, c'est tout.
D'accord. Donc c'est pas, un premier c'est film, mauvais, on va mais... dire non, avec
deuxième
beaucoup,
deuxième film.
Deuxième film pardon, avec beaucoup d'intention, beaucoup c'est un peu un level up hein, un bureau casting
ouais, complètement. Bon, même s'il avait quand même un beau casting pour La cabane dans les bois mais
ouais.
Y a des chouettes apparitions des tout petits rôles comme Nico Ferman ou Xavier Dolan.
Ah oui, rien
que Xavier Dolan qui a un petit rôle au début, je me dis merde, c'est Dolan. Mais c'est je trouvais qu'il avait l'air un peu plus bouffi ou je ne sais pas et
Nico Ferman.
Du coup, j'adore. J'étais pas sûr.
Ouais.
Mais c'était bien Xavier Dolan.
D'accord.
Nico Ferman, bon. Il a maigri lui par contre.
C'est vrai ?
Bah je trouvais, ouais.
Il a mis un anneau ou un truc comme ça.
Direct. Et il était pas obèse non plus, hein, ça va. Ouais.
Il a fait son barre de maigre. Il a tout de suite changé ça.
Écoute, en tout cas, il a maigri.
Bah écoute, bon, Bad Times et El Royale, vous avez compris, c'est pas un mauvais moment au cinéma. Mais c'est pas.
Ah non,
plus,
c'est drôle, on s'amuse bien, voilà.
Voilà. Mais c'est pas inoubliable non plus, quoi. Vous êtes pas dans un.
C'est pas un le film à ne pas rater de la semaine.
Exact.
Donc,
mais
du coup. Mais c'est tout de même un bon film devant lequel on passe on passe beaucoup de plaisir, on passe un bon moment, et on prend du plaisir. J'ai voulu dire deux phrases l'une à la suite de l'autre, et j'ai fait un mélange.
C'est plutôt voilà. Good times at El Royale, en fait, c'est un peu ça.
Il y a de ça,
je me tais.
Il y a de ça.
Qu'est-ce que tu lui donnes comme note à Bad Times?
Mais généreusement, je vais quand même lui donner 3.
Quoi?
Oui.
Bah, tu peux pas donner 3 au grand bain si tu donnes 3 à lui.
Mais si.
Non, je refuse.
Mais moi, je te dis que oui.
Je refuse 2.
Non, je trouve que ça se tient. Oh là
là, vous avez compris.
Ça se tient, ça se tient.
Moi, c'est 4 pour le grand bain. On va effacer cet épisode.
Oh là là.
3 étoiles pour Bad Times at the El Royal, parce que c'est quand même pas si mal que ça. Voilà, ce sera la phrase sur le poster.
On dirait un 3 moins, si tu veux.
3, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, c'est ça. On va commencer à faire des 3 et des coups de cœur et des bazars comme ça va être terrible.
Non.
Mais si alors, on parlait d'un dernier film, on peut en parler d'autres, hein, mais celui-ci, quand même,
oui.
C'est un film que beaucoup, beaucoup de gens attendent, parce qu'il a été bien, bien marketé. Je trouve, honnêtement, ils ont fait un bon boulot derrière ce film-ci, parce que ça fait un an qu'on a eu des articles sur Halloween. Alors, ce n'est pas un remake, c'est une suite du premier Halloween, en tout cas suite directe, réalisé par David Gordon Green, avec Jamie Lee Curtis, donc, qui reprend son rôle de Laurie Strode, et Michael Myers, qui est de retour, qui s'est évadé, et qui va du coup chercher un peu l'affrontement final entre Laurie et lui, qui, elle, s'est préparée pendant 40 ans au retour du tueur d'Halloween.
Ouais.
Et donc, du coup, elle a fait une maison avec des pièges et des trucs comme ça. Elle s'est en train d'attirer pour devenir vraiment la tueuse de Michael Myers. C'est le but du film. C'est une histoire un peu de revanche, on peut dire ça comme ça. Qui, je disais, a été bien marketé parce qu'ils ont fait tout un foin comme quoi, ben voilà, donc il y a Jamie Lee qui est de retour, il y a l'acteur qui était sous le masque de Michael Myers qui a repris son rôle pour certaines scènes également, donc il y avait un peu ce côté nostalgique. Et il tombe à point puisqu'il y a toute une génération qui ne connaît pas du tout le premier Halloween et qui pourrait du coup être des spectateurs de cette nouvelle version. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut? Surtout, en quoi est-ce que c'est mieux ou différent que le premier, ou bien c'est un peu la même chose, mais mis au goût du jour? Quel était ton sentiment?
Alors.
Ouais, j'ai couvert beaucoup de choses.
Oui, t'as beaucoup parlé.
Un peu trop.
Le truc avec Halloween, c'est que c'est une saga quand même assez compliquée. Hein. C'est le 11e film, je pense, ou le 12e. Donc, on s'y perd un petit peu. Surtout qu'il y a eu des choses un peu bizarres dans certains films où elle mourait, mais en fait, elle ne meurt pas. Il y a eu les deux films de Rob Zombie aussi. Donc, honnêtement, je n'ai pas poussé le vice jusqu'au fait de tout se revoir. Voilà. Donc, où en est-on exactement dans l'histoire? C'est une bonne question.
En gros, ils ont effacé tous les autres, quoi.
Mais je suis pas sûr, parce que je n'ai qu'un vague souvenir du 2 et 3.
Bah, écoute,
ou du, je sais même plus, 4, 5, bref.
C'est ce qu'ils disent,
j'ai vraiment perdu le fil.
En tournée de presse et tout, c'est ce qu'ils disent.
Mais oui, globalement, il y a pas mal de choses qui sont annulées.
Bien sûr.
Ils ont fait un petit truc à la X-Men. Hein. Hop! La trilogie initiale, comme si elle n'avait pas existé.
On l'appelle Halloween de nouveau. Hein. Il pourrait l'appeler Halloween 2 ou le retour de Michael Myers, mais ça s'appelle de nouveau Halloween.
Ouais.
Donc ils auraient pu faire Halloween 2018. Tu t'imagines vraiment le truc bad, quoi.
Bah, l'idée, c'est ça. Hein.
Ouais, en gros, c'est ça.
Et donc, en fait, ce qu'il se passe ici, je ne sais plus combien d'années on est après les événements du premier.
40,
voilà. Et donc, Jamie Lee Curtis, maintenant, elle est grand-mère. Hein, elle est plus.
Ah oui,
et
là.
Elle a vieilli.
Elle est restée fit.
Bah, en même temps, elle avait, je ne sais plus quel âge exactement dans le premier. Elle est moins de 20, ça c'est sûr, parce qu'il me semble qu'elle était encore au lycée.
Ouais.
Parce que oui, je me souviens qu'elle devait aller à la soirée du truc. Enfin,
c'était un film d'high school, en fait, hein, le premier. Concrètement, c'est un peu le...
Oui.
American Pie meets
oui,
un film d'horreur. Quoi.
Pas exactement, c'est quand même Carpenter. Hein,
c'est ça.
Mais oui, il y avait un peu de... Il y a un petit côté teen movie. Ici, ben voilà, Michael Myers s'échappe encore une fois.
Ta-ta-ta.
Et forcément, il retourne sur cette terre de prédilection.
Le soir
d'Halloween. Dans sa petite ville.
Again.
Dont j'ai oublié le nom, évidemment.
C'est pas le plus important. Hein. Je pense pas que la ville joue un rôle dans le film.
Oui, mais c'est un nom forcément qu'on retient parce que c'est Halloween, quoi.
Ouais, c'est genre.
Mais. Et donc, il retourne sur cette terre. Et. Il va se remettre à tuer. C'est Michael Myers, c'est quand même le tueur en série le plus connu de l'histoire du cinéma, à peu près.
On soit d'accord.
Un peu de choses près. Et. Jamie Lee Curtis a une fille qui est mariée et qui elle-même a une fille. Oui, donc Jamie Lee Curtis est grand-mère. Oui, enfin, Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, comme ça. C'est quand même son nom.
Ça sent le Next Generation, ça. Hein,
Un petit peu, mais pas tant que ça, parce que l'ennemi de Michael Myers, c'est Laurie.
Oui, bien sûr.
Donc, leur face-à-face est inévitable.
Mais comment ça s'est passé? Parce que si Laurie s'est entraînée pendant 40 ans à affronter Michael Myers, mm-hmm. je suppose que sa fille aussi a été sensibilisée à la cause.
Exactement. Alors en fait, la baraque de Laurie Strode, c'est un truc. C'est...
elle est sponsorisée par G4 Sécurité.
C'est presque ça. Elle a des pièges, elle a des portes qu'elle peut fermer en tapant. Tu sais, tu tapes sur un bouton, boum, t'as une porte automatique qui descend. Enfin. Elle s'est bien, bien préparée, quoi.
Oui.
Elle a des flingues, elle s'est entraînée au tir. Et du coup, elle a entraîné sa fille au tir aussi. Mais forcément, quand t'es une gamine et que tu grandis avec une mère limite parano qui fait une fixation sur un tueur en série...
Qui est en prison.
Qui est en prison et auquel elle a échappé 20 ans plus tôt. Il y a un moment, tu... Non, mais quand elle est petite, donc on va dire 20 ans plus tôt, un peu moins, forcément, il y a un moment, t'en as marre, quoi. Et quand tu deviens adulte, ben alors, ok, t'es content, t'es peut-être content, t'es encore, je suis pas sûr que ta mère t'ait appris à t'entraîner au tir, mais t'as envie de passer à autre chose, quoi. Le problème, c'est
t'as
que.
Envie de vivre tranquille.
Oui, et Laurie Strode, elle n'est jamais passée à autre chose. Donc elle a une relation assez conflictuelle avec sa fille.
Tant qu'elle ne sera pas mort, elle pourra pas passer à autre chose, quoi.
Mais voilà. Et bon, forcément, dans le film arrive cette confrontation entre Michael Myers et elle. Je n'en dis pas plus.
C'est le payoff du film. Hein,
bah, bien sûr.
C'est le money shot.
Mais bon. Qu'est-ce que ça va donner, ça?
Ah, ça bah, il faut bien qu'il y ait une suite, donc je suppose qu'il va se passer quelque chose.
Non, c'est pas nécessaire qu'il y ait une suite. Déjà, est-ce que c'était nécessaire de faire ce film-ci, dans l'absolu? Non.
Non.
Peut-être que c'est bienvenu parce que ça met... Enfin, ça remet les choses un peu dans l'ordre, entre guillemets. Parce que y a-t-il vraiment un ordre défini avec Halloween? Ça reste à...
Donc, j'ai deux prouver. Questions. J'ai deux oui. questions pour toi. Première question, c'est est-ce que c'est un bon film d'Halloween, tout simplement.
C'est un bon slasher.
Un bon slasher, voilà. Première question.
Voilà.
Oui, c'est un oui. bon slasher. Deuxième question.
Et je vais... Oui. Non, pose ta question d'abord.
David Gordon Green, c'est quand même un gars qui... C'est un funny guy, comme on dit. Hein. Il fait de l'humour. Oui. Il a fait des films avec Seth Rogen, etc. Donc, c'était Pineapple
Mais
Express,
oui,
entre autres.
Il a fait Pineapple Express. Il a fait votre Your Highness.
Donc, on est dans quoi, là? Il y a aussi des grosses scènes comiques un peu débiles ou quel est le concept?
Alors, non, il a fait quand même quelques drames. Il a fait Joe avec Nicolas Cage. Il avait fait l'année dernière, enfin, sorti début de cette année. Oui, du coup, ça fait deux films en un an. Stronger avec Jake Gyllenhaal.
Ouais, mais qui est un film qui avait été tourné il y a longtemps. Mais
ouais, c'est ça.
Ils ont mis du temps en post-prod et tout le bordel.
Donc, le gars est quand même un peu touché au drame aussi. Ici, il touche un genre complètement différent, vu que c'est un slasher. Et bah, il fait bien le job. En même temps, il avait un bon matériau de base.
Ouais.
Carpenter, hein. Qui signe encore la musique? Si je ne m'abuse. Et donc, non, il sort bien sur le côté nostalgique, parce qu'on retrouve à quelques différences près, le même générique que dans le premier film.
Ouais, c'est ça.
Et oui, effectivement, il y a la musique de Carpenter qui a écrit avec son fils et quelqu'un d'autre, je pense. C'est une production Blumhouse, Jason Blum, hein, la star
du film d'horreur,
du film d'horreur depuis 2-3 ans maintenant.
Oui. Producteur de Get Out, entre autres.
Entre autres. Donc, le gars était bien épaulé. Et en plus, maintenant, il cartonne aux États-Unis. Je pense que le film était fait pour 20 millions ou 40 millions. Plutôt 20 millions.
Mais tu évites ma question, du coup.
Et, désolé.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans ce film? Est-ce qu'il a injecté son humour ou est-ce qu'il est resté dans le slasher, simplement?
Il y a un... Ouais, pas grand chose. Enfin, si, un petit peu d'humour, mais c'est plus. C'est pas. C'est des trucs un peu piquants, tu vois.
C'est l'humour de transition, quoi. Oui. C'est genre entre 2-3 scènes de violence, on va te mettre.
Ou de... Non, c'est pas des blagues, mais. C'est plutôt dans les répliques et ce genre de choses, tu vois.
D'accord. Des dialogues un peu cinglants, quoi.
Oui. Mais C'est léger, hein, on est dans un slasher quand même.
Ouais, ok, d'accord. Donc il respecte quand même l'âme du slasher.
C'est pas Pineapple Express, quoi.
Oh, mais il respecte l'âme du slasher. On n'est pas dans Scream avec 2-3 scènes un peu débiles, quoi.
Non. Du tout.
On sait jamais, hein, parce que c'est ça aussi la réputation du réalisateur. Donc c'est ça que pour certaines personnes pourraient craindre. Et puis surtout, il y a beaucoup de films d'horreur aujourd'hui qui surfent avec la comédie, qui essaient de rendre le genre plus accessible. Je pense notamment à Happy Dead Day l'année passée, qui était aussi une production Blumhouse, qui lui avait un côté beaucoup plus comique. Donc voilà, que ceux qui aiment la franchise, la saga Halloween, ne soient pas déçus ou en tout cas inquiétés. On n'est pas tombé dans un truc génération LOL, quoi. On reste quand même dans le slasher classique, avec les crimes, avec plus de crimes, avec des nouvelles manières de tuer pour Michael Myers, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça dans les films Halloween, c'est essayer de faire la liste un peu de tous les outils qu'il utilise pour faire ses crimes.
Ça tourne souvent autour des mêmes trucs, hein, on va pas se mentir.
La cabane du jardin avec les trucs de bricolage, hein, il va souvent puiser là-bas.
Je te confirme qu'il aime toujours la cabane de jardin.
Donc, Halloween, la suite, ou slash le remake, enfin en tout cas l'idée c'est un peu de relancer la franchise. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note, en sachant que c'est un bon slasher?
Ben, un bon 3 étoiles aussi.
3 étoiles aussi, bah dis donc.
Écoute, je suis dans des semaines d'humeur généreuse.
Mais je vois, ça, c'est des sales semaines, comme on dit.
Mais oui, écoute.
Voilà. Passons en revue les films de la semaine avant de clôturer cet épisode. C'est à part si tu as quelque chose d'autre à rajouter, je ne pense pas. Hein. On a fait un peu le tour.
Oui, on a fait le tour.
Sinterklaas and Wackernachten. Autant vous dire qu'on ne l'a pas vu. Wajib, un film qu'on n'a pas vu non plus.
Non, malheureusement.
Halloween, on vient d'en parler. C'est 3 étoiles. Chair de poule 2, les fantômes d'Halloween, décidément.
Je ne l'ai pas vu, mais je ne vais pas te dire, malheureusement, je pense.
Attention, chair de poule, rappelez-vous bien, les amis, c'est le chair de poule, les livres qu'on lisait quand on avait 6, 7, 8 ans.
Il y avait une super série quand on était petit aussi, d'ailleurs.
Ah, c'est vrai. Il y avait, donc voilà, c'est l'adaptation de ça au cinéma, version. C'est pas version animée, hein, donc c'est un film avec des effets spéciaux. Un petit peu à la.
C'est pour les gosses. Hein.
Un peu à la nuit au musée, hein, donc c'est pas des.
Ouais.
C'est pas dingue, mais voilà. Saltant à l'hôtel El Royal, au Bad Times at El Royal, c'était 3 étoiles également. The Sisters Brothers, les frères Sisters, 4 étoiles. Bim! Jacques Audiard, Grand Bain, le coup de cœur, le cachet Cinécast, 3 étoiles.
On l'a perdu, ça y est.
C'est ça. Dis Lily à Paris, c'est le nouveau film de Michel Ancelot. On avait parlé de 2-3
fois. Ancelot.
Ancelot, pardon. Ancelot. Ce n'est pas du tout la même personne, Michel Ancelot.
Non, je ne sais pas qui c'est.
C'est qui ça? Mais... Si, c'est quelqu'un. Donc, Michel Ancelot, pardon, qui était le réalisateur de Kirikou. On n'en a pas parlé parce qu'on ne l'a pas vu, mais on en avait par contre parlé dans les épisodes précédents de ce film qui a une réputation d'être bon, mais un petit peu quand même en deçà de ce qu'il avait fait jusqu'ici. Au bonheur des dames, film d'Agnès Lejeune, documentaire, pardon, d'Agnès Lejeune, on n'a pas vu.
Oui, c'est sur les femmes de ménage.
Voilà, et là vous allez...
Pour montrer comment leur métier est pénible.
Vous allez nous en vouloir. Le flic de Belleville, on ne l'a pas vu, je suis vraiment désolé. Hein. Film de Rachid Bouchareb.
Parce qu'on ne nous l'a pas montré,
tout simplement. On ne l'a pas montré à la presse, ce qui est très mauvais signe.
C'est dire la confiance qui règne.
Ça pue. Mais oui, déjà que tu vois l'abondance, ça t'a compris. Avec Omar Sy et Franck Gastambide et Louis Guzman, c'est pour... Waouh. C'est un peu le flic de Beverly Hills adapté au flic de... Un flic de Belleville, du coup.
Oui.
C'est bien fait. Et puis, il y a un film d'animation, c'est Gordon et Paddy, qu'on n'a pas vu.
Non,
désolé.
Pas vu. Voilà. Mais je suis même pas sûr que ça sorte, ce truc, en fait.
Oui, c'est sur la liste.
Ça, c'est une erreur. Ça ne me dit absolument rien.
C'est sur la liste, mais bon, voilà. Restez avec nous, parce que la semaine prochaine, en tout cas, revenez la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on a un programme assez sympathique. Je ne sais pas ce que tu avais vu. Hein. Il y a le...
Alors, j'ai vu tous les films sauf un, et je peux te dire que je ne le verrai pas.
C'est Casse-Noisette et les Quatre Royaumes ?
Exactement.
D'accord.
Alors... Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, en fait, il y a un truc super bizarre. C'est que le film sort aux États-Unis genre le 2 novembre et ils ont un embargo jusqu'au 1er novembre. Et le film sort chez nous le 31 octobre. Et donc, Disney ne peut pas nous le montrer. Vu que le film sort chez nous avant la fin de l'embargo mondial.
C'est vraiment voulu
un truc encore ridicule à la Disney. Mais soit, que veux-tu.
Mais à côté de ça, il y a du très très lourd. Hein.
C'est pas plus mal parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a du très très lourd dont il faudra parler.
On a entre autres En Liberté, donc le film de Pierre Salvadori.
Que j'ai vu ce matin.
Il paraît que c'est la comédie de l'année, d'après certains magazines. Loro, qui est ni plus ni moins que le nouveau Paolo Sorrentino avec Berlusconi. Hein, c'est pas le biopic, mais
non, c'est pas un biopic.
Concrètement, c'est un film qui ça parle de Berlusconi. Oui. Cold War, c'était un film à Cannes également, si je ne me trompe pas.
Oui.
Film que tu avais vu. Et le fameux Bohemian Rhapsody, qui est le film tant attendu avec Rami Malek.
Oui, dans je la pense peau que ce seront Freddy nos quatre films, effectivement.
Mercury.
Même si j'ai vu le cinquième, Hellfest. Je n'en dirai peut-être que quelques mots rapides. Voilà, on verra bien. On n'y est pas encore, de toute façon.
Oui,
c'est la semaine prochaine.
Mais c'est juste un petit teaser. C'est un petit teaser pour.
Mais c'est un bon teaser. Pour parce revenir. Qu'effectivement, il y a Mama.
On va arrêter. Hein.
Ouais.
C'est la fin
surtout
du
que je connais même pas la suite des paroles. Mais je vais réviser d'ici mercredi, puisqu'on voit le film mercredi. Enfin, on. Toi, je ne sais pas, mais moi, je le vois en tout cas.
Ben voilà. Tout ça pour vous dire que c'était l'épisode saison 2, épisode 7, pardon, de Cinécast. On publie l'interview complète de Gilles Lelouch ce week-end, donc stay tuned, comme on dit. N'hésitez pas à laisser un petit avis hein, sur Apple Podcast, sur tous les trucs comme ça nous ferait vachement plaisir et ça nous aiderait. Donc
Spotify,
c'est gratuit.
Toutes nos plateformes, s'il
exactement
vous plaît.
Exactement. Merci à tous pour vos écoutes et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ciao, ciao.